en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Parmi les émissions dédiées au grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, Canal Académie vous propose aujourd'hui le témoignage d'une personne qu'il a bien connue, Madame Claudine Herrmann, auteure et avocate. Claudine Herrmann était à New York dans les années 40 quand elle rencontre Claude Lévi-Strauss.
Je l'ai rencontrée aux entretiens de Mount Holyoke. C'était des entretiens qui avaient été organisés par Gustave Cohen et Birkin Gurzevich pour prendre la suite des entretiens de Pontigny qui avaient en France avant la guerre. Et il s'était dit qu'aux États-Unis, il pourrait réunir des savants, des artistes, des écrivains et faire des entretiens comme on en faisait à Pontigny. Voilà. Et tous les émigrants ont été au Mount Holyoke et moi je venais de passer mon premier bachot et ma mère m'y a traîné. Je n'avais pas particulièrement envie d'y aller, mais enfin je me suis trouvé là. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de M. Lévi-Strauss.
Quelle première image vous gardez de lui ?
Écoutez, il m'impressionnait beaucoup. Hein. Il était beaucoup plus âgé que moi. Et il avait déjà une grande réputation. Il avait quoi, 34 ans ? Il avait déjà une grande réputation. Même à New York, enfin. Il était professeur à l'école libre. Il était connu de tous les émigrants. Ouais.
Dans quel lieu vous l'avez rencontré ? Vous lui avez parlé pour la première fois ?
Eh bien, un jour, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre que j'occupais à Mount Holyoke et M. Lévi-Strauss se trouvait par hasard derrière parce qu'il revenait de sa promenade. Et comme ça, nous nous sommes dit bonjour. Mais on savait qui on était quand même, parce que nous étions dans un lieu fermé avec d'immigrants, de gens qui se connaissaient plus ou moins, de loin ou de près. Donc, ils savaient qui j'étais, moi je savais qui il était. Enfin, on ne s'était jamais vraiment parlé. Et je le vois comme ça, débouchant de l'allée, et moi ouvrant mon bolet, et on s'est dit bonjour comme ça, voilà.
Et alors, qu'est-ce qui fait que, par la suite, vous êtes amené à le côtoyer ?
Eh bien, j'entrais en classe de philosophie cette année-là. Et un jour, à la suite d'un entretien où les jeunes gens avaient parlé, ça c'était une idée de Gustave Cohen, qui ne nous avait d'ailleurs pas enchantés, mais enfin, M. Lévi-Strauss m'a fait asseoir à côté de lui pour le déjeuner. Nous avons parlé et je lui ai dit que j'entrais en classe de philosophie. Il m'a dit, si vous avez une difficulté, vous pouvez me téléphoner. Voilà. Or, je suis en effet entré en classe de philosophie avec un professeur qui était assez désespérant. Et il faut dire que pendant la guerre, le directeur du lycée français faisait comme il pouvait pour trouver des professeurs. Enfin bon, et cette dame, je crois, ne connaissait vraiment rien à la philosophie. Et au bout de 2 mois, j'étais un peu perdu et je lui ai téléphoné. Il m'a dit, venez me voir. Je suis venu le voir et je lui ai expliqué ce qui n'allait pas. Et en 2 minutes, il avait... Là, j'ai compris quelque chose. C'est que tout problème peut être expliqué clairement. Mon professeur de philosophie pataugeait depuis 2 mois à nous expliquer quelque chose. Mais comme je vous dis, je crois qu'elle avait été chargée de secours par une sorte d'accident. Enfin, ce n'était pas sa profession. Mais enfin, on ne comprenait absolument rien à ce qu'elle disait. Et en 5 minutes, tout était réglé avec M. Lévi-Strauss, au point que je me disais, mais enfin, comment est-ce que j'ai pu le déranger pour ça ? Comment est-ce que j'ai eu l'audace de venir le déranger pour une chose aussi insignifiante ?
Il avait peut-être tout simplement l'art des mots, l'art de la pédagogie.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Il n'y a pas un mot inutile et tout ce qu'il dit est très clair. Alors que j'ai entendu tellement de bavardages dans les facultés sur le structuralisme, tellement de choses incompréhensibles. Il n'y a pas une phrase qui soit incompréhensible, c'est toujours très clair.
Vous êtes amené à le rencontrer plus régulièrement par la suite ?
Je suis revenu. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant, mais j'aimais beaucoup l'écouter. J'y suis revenu, en effet, plusieurs fois. Et puis, un jour, il m'a proposé de copier ses fiches.
Quelles fiches ?
Les fiches de... Il commençait à établir le fichier qui devait servir aux structures élémentaires de la parenté. Il était en train de préparer sa thèse. Et il n'avait pas de secrétaire, et il n'en a pas eu que je sache aux États-Unis. Mais il avait beaucoup de choses à faire, et il avait besoin qu'on tape ses fiches au clair. Il m'a demandé de le faire. Malheureusement, je ne savais pas du tout taper à la machine. Et je pensais que c'était très facile. Vous savez, j'étais très jeune. Moi, je me disais, ces machines, après tout, c'est rien du tout. Catastrophe. Il avait dit surtout, qu'on ne raie aucune chose. Je veux que ce soit parfaitement net, qu'on n'efface pas, qu'on ne raie pas, etc. Mon Dieu. Alors, je recommençais. Puis, il arrivait quelque chose. Et je devais recommencer encore parce que c'était comme le tonneau de Danaïde, ce fichier.
C'était difficile.
Et c'est-à-dire que quand j'avais un obstacle, je ne pouvais pas le barrer, le rayer, l'effacer. Alors je recommençais, ce qui fait que je faisais, je ne peux pas vous dire, un nombre vraiment mineur de fiches. 4 ou 5 en 2 heures, enfin c'était un vrai désastre. Alors il a eu assez de patience et puis un jour... Il n'a rien dit. Je crois que les premières fois, il n'a rien dit. Je me doutais bien que je n'avais pas fait un chef-d'œuvre, mais il devait se dire, elle s'habituera, et moi, je me le disais aussi. Puis, en fait, c'était toujours aussi désastreux. Alors, un jour, il m'a invité à dîner. Je me disais, au fond, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis, au dessert, il m'a dit, mais enfin, mademoiselle, comment faites-vous pour taper aussi peu de fiches en autant de temps. Ça, je me souviens de la phrase. Alors, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Je vais arrêter, hein, d'ailleurs. Je n'avais pas le choix. J'ai donc démissionné. Et puis, quand même, au bout d'un moment, on avait quand même lié des liens d'amitié. Et je suis revenu, au bout de quelques mois, je suis revenu encore le voir. Et un jour, on a été au théâtre chinois ensemble. Et je crois que c'était sa grande spécialité, le théâtre chinois. Évidemment, il s'occupait beaucoup de la Chine au moment de sa thèse. Les structures élémentaires de la parenté, il y a beaucoup de références à la culture chinoise. Et tout ce qui était chinois l'intéressait. Et quand nous allions dîner, c'était dans des restaurants chinois en général. Et il m'a donc emmené au théâtre chinois. Vous savez, ce théâtre, c'était curieux. Il était permanent. C'était comme le cinéma permanent. Il ne s'arrêtait pas, il ne commençait pas. On entrait, on sortait, on repartait, etc. Et je n'ai jamais vu ça, même dans les théâtres chinois que j'ai pu voir ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. C'était un théâtre. Alors, on voyait les gens qui arrivaient avec leur journal, leur sandwich, leur Coca-Cola, et qui regardaient, puis ils en avaient assez, ils s'en allaient, etc. C'était assez curieux. Mais je ne comprenais rien, naturellement.
Donc là, on est à New York.
On est à New York.
En quelle année ?
Ben, ça
à
doit
peu près
être...
dans les années 40 ?
Oui, ça doit être vers 1943-44, par là.
Claude Lévi-Strauss passe beaucoup de temps à la New York Public Library, qui est la grande bibliothèque.
Oui, oui, je la connais très bien. C'est la bibliothèque de la 42e rue. Ce n'est plus maintenant la bibliothèque. Maintenant, c'est devenu un lieu d'exposition. Et il y a des grands lions devant la porte qui sont toujours là.
Vous les connaissez bien, ces lions ?
Ben oui, parce que souvent, il me disait de venir l'attendre et je le faisais. Et puis, on allait dîner ou on allait bavarder quelque part. Et vous savez, c'était très particulier, l'atmosphère de New York. On ne vivait pas comme en France. Enfin, c'était très décontracté. Et bon, alors j'allais l'attendre et je m'asseyais sur un lion. Et puis, on allait dîner ou on allait... Enfin, bon. Je me souviens, il travaillait beaucoup, évidemment. Il élaborait cet ouvrage qui a été une thèse considérable. Et où mon beau-frère a été y assister à l'époque. Il a passé sa thèse à son retour en France. Il a dit qu'il n'avait jamais vu une thèse aussi longue. Et il était lui-même professeur à la Sorbonne, mais il a été absolument stupéfait par l'importance qu'a pris cette thèse, dont il a été écouté la défense avec le mathématicien André Weil, qui avait collaboré au travail. Parce que dans certains endroits, Lévi-Strauss a fait appel aux mathématiques.
Il passe ses journées à lire. Du matin au soir, il est à la bibliothèque.
Mais écoutez, Je ne crois pas, parce que c'est tout de même, en tout cas à cette époque-là, un homme qui a une certaine fantaisie. Je ne crois pas qu'il n'est pas dans une routine d'acier. Je crois qu'un jour il fait ça, un autre jour il va au théâtre, un autre jour... Mais il travaillait certainement beaucoup. Mais ce n'est pas un homme qui avait, à mon sens, hein, parce que vous savez, il ne faut jamais s'aventurer trop pour parler de la vie des autres, mais je crois qu'il travaillait énormément, mais pas comme une mécanique, je pense qu'il faisait beaucoup de choses, mais enfin, il s'intéressait à beaucoup de choses. Il a raconté lui-même comme il allait dans le marché, chez les antiquaires, pour tâcher de trouver des objets indiens, etc. Enfin, il partageait sa vie, c'était pas
oui,
quelqu'un qui...
Il a des loisirs et des plaisirs par ailleurs, mais il dit quand même de cette période qu'elle a marqué une grande effervescence culturelle.
Oui, mais c'était merveilleux, New York.
Il passe
à
toutes
cette
ses journées, il est pris dans les livres de Jacobson.
Mais pas seulement dans les livres, il le voit, il voit André Breton, il voit... Il y avait une activité culturelle phénoménale à New York. Il y avait tout le temps des expositions, des concerts, des conférences. Je n'ai jamais vu un endroit aussi. Et puis, c'était un peu tout de même toujours les mêmes personnes aussi. Il n'y avait pas quand même un nombre infini d'immigrants. Des migrants français ou des migrants de langue française. Il était très lié, en effet, avec les Jacobson, il était très lié avec les surréalistes, avec Breton. Il y avait tout un groupe de surréalistes qui était à Tanguy, il y avait un groupe de surréalistes qui était à New York. Donc tout ça faisait que, bien entendu, il n'allait pas à la bibliothèque tous les matins à 9h jusqu'à 6h du soir. Il faisait beaucoup d'autres choses. Et nous faisions tous beaucoup de choses et on travaillait quand même beaucoup les uns et les autres finalement.
Comment est-ce qu'il passe son temps en dehors de ses activités de travail? Vous disiez qu'il aimait les antiquités, il aimait beaucoup aller chez les brocanteurs.
C'est-à-dire qu'à cette époque, à New York, on trouvait beaucoup d'objets indiens qui n'étaient pas très chers finalement, parce que la culture indienne était extrêmement méprisée aux États-Unis, sauf par les ethnologues évidemment. Mais ça ne comptait pas pour les Américains, la culture. Tout ça a beaucoup changé. La culture noire ne comptait pas non plus. Ça n'existait pas aux yeux des Américains. Donc tout ce qui était indien était extrêmement bon marché. Ni lui, ni André Breton n'étaient très riches. Ils pouvaient acheter des objets très beaux qui n'étaient pas trop chers. Je me souviens qu'ils cherchaient des têtes réduites, des objets qu'en France, on aurait trouvé très difficilement et sans doute très chers, parce que c'était déjà des choses appréciées.
Est-ce qu'ils collectionnaient des sculptures, des objets?
Écoutez, moi je me souviens de deux objets qu'il avait chez lui. Il habitait un studio qui n'avait pas de fenêtre, et qui était éclairé par le haut, ce qui donnait tout de suite une atmosphère tout à fait particulière. C'était à Greenwich Village, c'était un endroit très, très silencieux et très intéressant, et très petit, parce que je vous dis, nous étions tous partis comme nous pouvions, nous n'étions pas riches, nous faisions des boulots pour gagner de l'argent, enfin c'était... Bon, enfin, quoi qu'il en soit, je me souviens qu'il y avait une table coffee table, là, une table basse, et nous étions assis chacun d'un côté dans un fauteuil. Et derrière lui, il y avait deux statues. Une dont j'ignore ce que c'est au point de vue à quelle culture elle appartient, qui représentait un guerrier qui tenait une lance et qui avait des yeux dorés et qui était en bois, il me semble, en bois, mais en bois assez foncé. Et il avait l'air d'être sur le point de s'élancer avec sa lance. Et c'était assez beau. Il était accroupi, il était en train de s'élancer. Et puis, il y en avait un autre qui était, je pense, enfin, je ne veux pas dire de sottise parce que vraiment, je n'y connais rien, mais je crois à ce qu'on appelle aux États-Unis un pole, c'est-à-dire une espèce de statue qui est comme une colonne avec... En haut, deux espèces de triangles qui s'ouvrent ou qui se ferment. On peut les étaler ou on peut les refermer. Et je crois que ça représente les ailes d'un oiseau. Je n'oserais pas l'affirmer, mais je crois que ça représente les ailes d'un oiseau et que ce sont des totems qui représentent justement les mythes de la Colombie, de la Colombie-Britannique. Ce type de totem que j'ai vu là-bas représente peut-être bien un corbeau, un animal qui est important pour les Indiens, qui est sacré pour les Indiens, et qui ouvre ses ailes ou bien qui les ferme. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, vous savez, c'est peut-être sans aucun rapport avec la réalité.
Est-ce qu'il part souvent en mission, en exploration au Brésil ou autre, quand il est à partir de New York?
Non. Quand nous étions à New York, il n'était plus question d'aller faire des expéditions. D'abord, avec les lois américaines, il aurait eu beaucoup de difficultés à rentrer. Et il parlait à la radio pour les Free French. Et non, il ne faisait pas d'expédition.
Est-ce qu'il est connu à New York à l'époque? Est-ce qu'il commence à faire parler de lui?
Ah, certainement dans les milieux d'ethnologues. Il fait connaissance avec Boas, qui est un ethnologue majeur. Et figurez-vous qu'il était justement en train de déjeuner avec lui quand Boas est mort, tout à coup. Je me souviens de ça parce que c'était assez... Il a connu Margaret Mead, il a connu tous les grands ethnologues américains. Il avait déjà une place considérable à ce moment-là.
C'est une période de guerre. Est-ce qu'il a conscience de ce qui se passe en France ?
Écoutez, nous en avons tous conscience, évidemment. Il a fait ce qu'il a pu, comme je vous ai dit. Il s'est mis à la disposition des Free French et il faisait des émissions à la radio. Mais personne n'avait idée de l'immensité de la catastrophe. Voilà, c'est ça que je dirais. Et il en a eu connaissance quand il est venu en mission en 1944. Je crois que, oui, après la libération de Paris, c'était 44, la libération de Paris, il est venu en France dans l'hiver qui a suivi. Et je l'ai vu à son retour dans un grand état de dépression. Et il m'a raconté des choses horribles que tout le monde connaît aujourd'hui, mais que nous ne connaissions pas. Parce que, aussi, il faut dire que les Américains avaient essayé plutôt d'occulter beaucoup de choses, parce que pour pas déranger les populations. J'ai même entendu des gens dire que tout ce qu'il y avait sur les camps de concentration, sur tout ça, c'était pas vrai. C'était, vous voyez, ils faisaient du négationnisme avant l'heure, et on ne donnait pas d'image de ça. Et puis il n'y avait pas la télévision, n'oubliez pas.
Donc à la Libération, il retourne en France.
Après la libération, c'est-à-dire dans l'hiver qui suit la libération, mais la guerre n'est pas encore finie à cette époque, elle ne devait se terminer qu'en mai. Et il est revenu vers avril peut-être, enfin au printemps, et j'ai vu qu'il était extrêmement frappé de ce qu'il avait vu et entendu.
Il ne pouvait plus parler.
Si, il m'a dit certaines choses, mais j'ai vu qu'il était vraiment très désespéré. Personne n'imaginait que les choses avaient été à ce point, voyez-vous. Et on se doutait bien que c'était catastrophique, mais entre se douter et puis voir les choses complètement horribles, et je ne sais pas en quoi consistait sa mission, mais sans doute, s'agissait-il aussi d'informations, enfin, je ne sais pas. En tout cas, il est rentré, et j'ai vu qu'il était complètement effondré.
Il continue son travail, ses recherches. Quand est-ce qu'il termine cette vie à New York? Quand est-ce qu'il rentre à Paris définitivement?
Écoutez, c'est moi qui suis rentré à Paris. Après, il est resté encore, après moi, il a été attaché culturel. Il est resté, je ne sais plus, alors il est resté 2-3 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous retenez? On arrive au bout de cette émission. S'il y avait un mot, une phrase, une attitude que vous reteniez de cet homme, laquelle serait-elle?
C'est très difficile de
répondre à cette question. Si vous avez une anecdote à nous faire partager, peut-être?
Oui, je peux vous raconter que nous avons fait ensemble un dîner chinois chez lui. Nous avons été faire le marché au quartier chinois de New York, qui était... Ceci nous ramène vraiment très loin dans le passé. Il y avait à l'époque à New York un métro aérien qui s'appelait l'Elevated et qui a disparu déjà depuis très longtemps. Et c'est entre les pattes de cet Elevated, qui avait des jambes d'acier, que se tenait le quartier chinois. Et M. Lévi-Strauss connaissait tout. Moi, il me faisait l'impression d'avoir un savoir universel. Où qu'il soit, il savait tout. Alors, nous voilà au marché. Et il me dit, nous allons acheter un canard laqué. Très bien, on achète un canard laqué. Et puis, on achète encore un légume étrange. Je ne sais plus trop ce que c'était. Et puis, comme moi, j'aimais bien les desserts et qu'ils en étaient aperçus, on a acheté des pâtes de fruits. Et puis, on est rentré triomphalement chez lui pour faire le dîner. Alors, il a mis le canard. Moi, je n'avais jamais vu de près un canard laqué comme ça, un grand canard laqué qu'on avait décroché d'un crochet et dont on avait marqué le prix sur un boulier compteur, parce que c'était vraiment chinois, hein, c'était pas du tout... Bon, enfin bref, il met ce canard dans le four, je le vois encore plonger le nez dans les épices, il y avait tout un rayonnage avec des épices. Puis nous allons prendre un peu de un verre en attendant que le canard soit chaud. Enfin, on sort le canard. Moi, j'étais extrêmement curieuse de voir comment le canard allait tourner. On sort le canard, Monsieur Lévi-Strauss très affairé, il prend un grand couteau. Nous nous penchons tous les deux sur le canard. Il plonge son couteau dans le cœur du canard et un immense geyser nous arrose tous les deux. Et c'était la laque qui était dans le canard. Et ça, il n'avait pas prévu. Et ça m'a fait énormément rire de voir qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas prévu.
Merci beaucoup, Madame Herman, de terminer sur cette note humoristique. Je rappelle donc que vous avez été témoin de quelques passages de vie de M. Lévi-Strauss et nous vous remercions de nous en avoir fait profiter. Je rappelle à nos chers internautes que nous fêtons le 28 novembre le centenaire de la naissance du grand penseur français, M. Claude Lévi-Strauss. Et bien sûr, vous pouvez télécharger cette émission sur canalacademy.com.